Est-ce que la politique peut influencer sur les questions de changement climatique?
Alors, ma réponse est non, et je vais faire deux parties dans ma réponse. La première partie consiste à vous expliquer comment ça marche la science. Quand nous avons des résultats scientifiques, nous soumettons des publications à des journaux scientifiques, quoi, qui ont des comités de lecture qui sont composés de scientifiques. Et cet article est donc soumis à ce qu'on appelle des référés, qui critiquent l'article. Et donc, en fait, après quelques circuits de ce genre, l'article est accepté par la revue comme étant de la science solide. Donc, on peut dire qu'il n'y a aucun impact de la politique sur les publications scientifiques relevant du changement climatique. Première partie de la réponse. Deuxième partie, ces résultats et propositions scientifiques qui vont avec sont ensuite transmis, bien sûr, à l'ensemble du public, dont les politiques. Et les politiques, depuis quelques années, ont inventé un nouveau domaine qu'on appelle les fausses nouvelles, les fake news en anglais, et qui revient à dire qu'il y a des faits, certes, mais je ne crois pas, je ne crois que dans les faits que je veux bien croire. Le parfait illustrateur de ce type de courant, c'est hélas le président des États-Unis actuel, Donald Trump. D'accord? Mais je ne suis pas responsable de ce que Donald Trump raconte sur le changement climatique.
Le réchauffement et la pollution des océans sont-elles deux questions différentes?
Elles le sont en un sens et on va voir qu'elles se retrouvent ensuite, quoi. Le réchauffement de l'océan est dû à l'excès d'effet de serre. Vous avez entendu parler sûrement des émissions de CO2 qui sont dues à l'homme depuis l'ère industrielle, mais aussi les émissions de méthane qui sont dues à l'agriculture, hein. Bon, depuis belle lurette, hein. Et donc, ces gaz à effet de serre et quelques autres sont émis en telle quantité actuellement, du fait donc de l'activité humaine, que ceci provoque un réchauffement de l'atmosphère et donc, de façon générale, de la planète Terre et donc de ses océans. D'accord? Parallèlement, le développement de l'économie de toutes sortes, agriculture, industrie, tourisme, produit énormément de rejets du fait de l'expansion démographique, en particulier le long de nos côtes, sur la bordure littorale. Et ceci, par exemple, se traduit en Bretagne, pour prendre un exemple qui est célèbre, par le rejet excédentaire de nitrate par les rivières du fait des engrais que nous utilisons en surplus dans l'agriculture. Donc, dans une première partie de la réponse, je dirais qu'il n'y a pas de relation directe entre les pollutions de l'océan en général, par conséquent par la bande côtière, et par le réchauffement climatique qui est global de l'autre côté. Mais en fait, maintenant, tout se couple. En effet, quand on rejette les nitrates dans l'océan, dans la bande côtière, on va favoriser les algues qui aiment bien les nitrates, par exemple les fameux marées vertes, ça s'appelle des ulves dans notre jargon, et la croissance est d'autant plus facilitée que la température est élevée. Donc, de ce fait, bien sûr, le réchauffement climatique interfère avec les impacts des pollutions de l'océan.
Est-ce qu'il y aura des endroits de la planète qui seront plus touchés que d'autres par le réchauffement climatique?
Alors, premier point, on se rend compte que le réchauffement vient par l'atmosphère d'abord, et on voit bien que l'atmosphère circule très vite par rapport aux océans. L'océan est un fluide, un liquide, et qui circule lentement. Par exemple, si je lâche une goutte d'eau, disons au sud du Groenland, cette eau est froide et l'eau va plonger, elle va aller vers le fond des océans, vers les abysses, et elle va revenir à la surface de la Terre en ayant fait tout le tour de la planète 2000 ans plus tard. Par contre, le vent, eh bien, vous savez tous que, en Bretagne en particulier, que le vent, c'est-à-dire le transport de l'air, est très dynamique. Et on voit bien, nous, ici, en Bretagne, une semaine ou parfois moins après, l'impact des tempêtes qui se passent en Floride et de l'autre côté, de l'Atlantique. Donc, vous avez d'un côté un fluide qui circule lentement et de l'autre côté, en quelque sorte, une atmosphère qui circule beaucoup plus rapidement. Alors, la question était, est-ce que tu veux bien me la rappeler?
Est-ce qu'il y aura des endroits de la planète qui seront plus touchées que d'autres
Voilà.
par le réchauffement
Donc,
climatique.
quand tu sais que l'atmosphère circule rapidement, on peut dire que tous les endroits de la planète seront impactés par le réchauffement climatique. Ça va? Mais, d'autre part, quand on sait que le climat, lui, joue un rôle régulateur, l'océan joue un rôle régulateur, l'océan, en effet, absorbe plus de 90% de l'excès de chaleur qui est créé par l'effet de serre. Autrement dit, s'il n'y avait pas l'océan, du fait du transport de la chaleur par l'atmosphère, le réchauffement serait beaucoup plus rapide que ce que l'on connaît. Donc, dans l'océan, il y a des zones froides et des zones plus chaudes. Et en particulier, les zones froides sont les plus sensibles au réchauffement. Donc, le réchauffement impacte d'abord les zones polaires, l'Arctique par exemple. Vous avez tous vu sûrement à la télé ou dans les médias l'impact du réchauffement avec, en été, la disparition d'une bonne partie de la banquise. Mais en fait, ce sont les premières zones touchées, mais à terme, toute la planète sera touchée. On parlera de la Bretagne après si vous voulez.
Le réchauffement climatique a-t-il des impacts sur la santé?
Ah, bien sûr. En 2015, il y a eu ici un colloque à Brest que j'avais organisé au titre de l'Académie européenne des sciences. Et il y avait en particulier des médecins qui étaient venus nous expliquer que eh bien, certaines maladies qui ont disparu, hein, des maladies par exemple dites tropicales, du fait que la température se réchauffe plus vers le nord, quand on est dans l'hémisphère nord, et plus vers le sud, quand on est dans l'hémisphère sud. On voit maintenant des zones qui n'étaient pas affectées par des maladies tropicales qui vont l'être, qui le sont déjà pour, en partie, et qui vont l'être. Donc c'est certain qu'il y aura, il y a déjà, enfin, la santé des hommes est déjà affectée par le réchauffement climatique.
Quel est le rôle des océans dans le réchauffement?
Le premier effet, c'est que l'océan absorbe 90% de l'excès de chaleur dû à effet de serre. Donc, c'est un régulateur du climat, d'accord? Puisqu'il va absorber une partie de cette chaleur. Le deuxième point, en fait, il absorbe aussi l'eau de mer, comme tous les fluides d'ailleurs, hein, et l'eau de mer en particulier, va dissoudre les gaz de l'atmosphère, et en particulier le fameux CO2. Et là, le problème, c'est qu'en dissolvant du CO2, l'océan va changer son pH. Vous avez peut-être vu en SVT le pH. Donc l'acidité de l'océan, et en quelque sorte, l'océan va devenir de moins en moins basique, de plus en plus acide. Alors évidemment, dans un premier temps, en absorbant le CO2, on peut dire, ben, c'est génial, parce que de ce fait, il limite l'effet de serre. Donc en fait, pour résumer ma réponse, l'océan joue un rôle régulateur du climat, d'une part en absorbant la température, et aussi en absorbant une partie du CO2 de l'atmosphère, sauf que lui-même, par conséquent, se réchauffe et en plus devient plus acide. Donc, bien sûr, il va être impacté directement par le réchauffement climatique.
Est-ce qu'il faut penser que la Terre sera plus chaude? Doit-on tout faire pour diminuer le réchauffement? Ou au contraire, devons-nous accepter ce réchauffement et tenter de nous y habituer?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, la situation est devenue difficile. Jusqu'à présent, personne ou peu de responsables politiques croyaient à la réalité de l'effet de serre, et on se disait, bon, ça va passer. On voit bien maintenant que la température a commencé à s'élever, puisque depuis 1860, qui est le début de l'ère industrielle, on a déjà augmenté de presque 1 degré la température moyenne, je dis bien moyenne, en surface, quoi. Et de ce fait, on se dit que finalement, est-ce que ça va continuer? Voilà, la réponse est hélas oui, parce que le rythme d'augmentation du CO2 et du méthane, hein, et des autres gaz à effet de serre ne se ralentit pas. Donc maintenant, on est obligé de réaliser qu'à la fin de ce siècle, et peut-être même au plus court, hein, près de nous, hein, en 2050, on aura une augmentation de température de plus 1 degré de ce qu'on connaît actuellement, et peut-être de plus 3 degrés à la fin du siècle. Alors vous me direz que ça ne fait pas grand-chose, mais on va réfléchir ensemble à ce point-là parce qu'il est important. La température moyenne à la surface de la Terre, sans l'effet de serre additionnel, était de 15 degrés. À la fin de ce siècle, il sera peut-être de 18 degrés ou de 19 degrés, voire de 20 degrés. Donc imaginez 3 ou 4 degrés de plus en température moyenne. Alors vous me direz, ça ne fait pas grand-chose et c'est chouette. Bien sûr, sauf que ça amène beaucoup de transformations. Alors je vais prendre le phénomène à l'envers. Vous avez tous entendu parler de l'homme de Cro-Magnon. Donc il y a 10 000 ans en arrière, 20 000 ans en arrière, je dirais, pour être plus précis, la température moyenne à la surface de la Terre était de l'ordre de 3 degrés en dessous de maintenant. Vous voyez l'impact ? La calotte glaciaire de l'Arctique s'étendait jusqu'au niveau presque de la Bretagne. Donc vous voyez que des degrés en plus ou en moins de la température moyenne ont évidemment un impact énorme. On pensait jusqu'à présent que les gouvernements de la planète, enfin des différentes nations de la planète, étaient suffisamment responsables pour engager les mesures de façon à ralentir ce réchauffement, c'est-à-dire en fait à ne plus rejeter dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, à la fois pour l'industrie ou pour l'agriculture. On voit bien que ce n'est pas le cas, hein. Et on voit qu'il y a les lobbies qui sont à l'œuvre. Et on voit bien aussi maintenant qu'au niveau des politiques, pensez par exemple à Trump, hein, dont je parlais tout à l'heure, il nie même la réalité de l'effet de serre. Donc on voit bien la température qui continue à monter, et on est dans le scénario qui est le plus mauvais actuellement. Alors ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça, mais comme vous savez, pour que les choses changent, il faut beaucoup de temps. J'ai parlé tout à l'heure, il faut 2000 ans pour faire le tour de l'océan à une goutte d'eau. Alors peut-être que ce n'est pas à cette échelle-là, mais il faut certainement plusieurs dizaines d'années avant que l'on voit les effets d'une politique à l'échelle globale. Et donc, de ce fait, il est devenu urgent maintenant de considérer deux aspects. Le premier, c'est effectivement d'inciter au niveau individuel tous les hommes, toutes les femmes, tous les citoyens, eh bien, à s'interroger sur leur bilan carbone. Qu'est-ce que je rejette en circulant? Qu'est-ce que je rejette en chauffant ma maison? Et donc à isoler sa maison, à utiliser des moyens de transport qui sont plus, écologiques. Et aussi que l'industrie le fasse de la même façon, ce qu'elle a déjà commencé à faire d'ailleurs. Mais ça ne suffira pas, il va falloir retirer de l'atmosphère du CO2. Alors excusez-moi du mot un peu compliqué, on appelle ça de la géo-ingénierie. Donc capter le CO2 au lieu de le rejeter dans l'atmosphère, et on est obligé de faire ça maintenant, sinon on ne s'en sortira pas. Voilà ce que je peux répondre à la question.
Comment imaginez-vous Plougastel en l'an 2050? Qu'est-ce qui changera dans notre environnement et dans nos vies?
Ah ah, bonne question. Alors, Plougastel, c'est une presqu'île, hein, d'accord? Avec énormément aussi de kilomètres de côte. Hein, si ma mémoire est bonne, il y aura à peu près plus d'une trentaine de kilomètres de côte à la presqu'île Plougastel. C'est son côté agréable, avec des caps et des anses, quoi. Et donc, en fait, la température du Plougastel est fortement tempérée par la température de la rade de Brest. La température de la rade de Brest, en moyenne, actuellement, est de 11 à 12 degrés. Eh bien, en 2050, elle sera probablement 1 ou 2 degrés supérieure. Alors, on voit bien qu'il y a un côté qui est sympathique, c'est-à-dire qu'on aura des hivers moins froids, mais on aura aussi des étés plus chauds. Seront-ils trop chauds? Et la question qui vient avec, c'est que une bonne partie de l'activité de Plougastel, enfin, je ne sais pas, Plougastellois, c'est ça?
Plougastellène,
voilà, merci. Donc, je ne dis pas Plougastellène, mais je sais qu'une bonne partie de l'activité économique de la presqu'île, c'est aussi l'agriculture, avec les serres, les fraises, etc., etc. Et donc, c'est les plantes et bon, les animaux qui sont derrière ont besoin d'eau, bien sûr. Et en fait, si Plougastel se réchauffe, sera-t-elle plus sèche, plus desséchée ou plus humide? Et en fait, dans nos scénarios climatiques, eh bien, actuellement, on hésite. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore répondre. Il y a deux hypothèses. Soit qu'elle sera vraiment beaucoup plus humide et inondée, soit qu'elle sera complètement desséchée, quoi. Vous voyez qu'en fait, de toute façon, il y aura des conséquences, à la fois sur la température pour les hommes, pour les femmes, pour vous, mais aussi pour les cultures, pour l'activité économique en général, que ce soit à terre ou bien sûr en mer, je vais revenir sur la mer tout de suite, mais au-delà, donc, il y aura des impacts sur les pluies ou sur la sécheresse, quoi. Alors, sur la mer, c'est important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus l'homme émet de CO2, plus le CO2 a tendance à se dissoudre dans l'océan. Vous me suivez, hein? Donc, plus il y a donc de CO2 dans l'océan, c'est-à-dire l'océan s'acidifie. Et est-ce que les coquilles calcaires, tous les coquillages dont la récolte fait notamment la richesse économique aussi de Plougastel, sera affectée par un océan plus acidifié? La réponse, hélas, est oui. Donc, il y aura des perturbations sur les cultures marines. Par conséquent, la perturbation pour Plougastel sera sûrement totale. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Alors, que peut-on faire à notre niveau pour essayer de réduire les impacts du réchauffement sur Plougastel?
Alors, chacun a sa tâche à faire. Et quand je dis chacun, c'est à la fois chacun d'entre vous, votre famille, la commune, le département, la région, la France, l'Europe et le monde. Donc, il y a différents niveaux de responsabilité. Bien sûr, il faut qu'il y ait des décisions de prise par les nations qui sont les plus importantes, et je parle en particulier les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, etc., hein, sans parler, bien sûr, sans oublier, bien sûr, l'Europe. Donc, au niveau des gouvernements, en favorisant ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire la mise en œuvre de moyens pour produire de l'énergie qui ne dégage pas de CO2, et également la promotion de tous les processus qui, en agriculture ou en industrie, et bien précisément, devient beaucoup plus économe en énergie et surtout ne rejette pas de gaz carboné. Mais l'action individuelle est évidemment importante. L'action individuelle, c'est-à-dire vous, comment vous circulez dans votre famille, comment est-ce que la maison est isolée, et puis également au niveau de ce que l'on mange, la nourriture, comment est-ce que ce que l'on achète, les denrées que l'on achète, est-ce qu'ils ont nécessité beaucoup d'énergie pour les transporter, par exemple, ou est-ce qu'on favorise les productions locales? Donc, ça concerne aussi, bien sûr, le collège avec le sel. Je ne sais pas si c'est un sel, mais enfin, disons la cantine. Hein, voilà. Et donc, tout le monde est concerné, en fait, et chacun individuellement, vous en particulier.
Est-ce que sur Plougastel, la faune et la flore seront modifiées ou différentes?
La faune et la flore sera forcément modifiée puisque, comme on a bien vu, la flore et la faune sont adaptées aux conditions de température et de précipitation. Donc avec une température qui sera forcément plus haute, il y aura un impact. Et pour la pluie, comme j'ai vu, on ne sait pas encore quel est le bon scénario, soit la sécheresse, soit au contraire des événements avec des pluies plus abondantes. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi la flore et la faune marine, comme vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien arrosée par la Radobresque. Donc, tout le monde sera affecté, la faune et la flore, à la fois sur la terre et sur la mer.
Alors, quand on regarde les projections pour les questions de température, est-ce qu'on pourrait avoir l'impression que le Finistère serait une terre assez clémente, ou peut-on imaginer que notre département devienne un refuge climatique?
Alors, c'est une bonne question également, parce qu'on s'est aperçu, par exemple, que dans les épisodes de sécheresse, il y en a eu, hein, par exemple la dernière en 2003, eh bien, les régions comme la nôtre sont réputées plutôt tempérées, donc sans excès de température, sert de refuge également à ceux qui voulaient un peu de fraîcheur. Donc, c'est évident que il y aura la presqu'île Plougastel en particulier sera directement affectée par ce genre de considération. La question que j'ai à ta question, c'est que tu considères uniquement la température, d'accord? Et en fait, ce qui importe pour l'occupation des hommes, c'est à la fois la température. Bon, on a vu que clairement, pour l'ensemble de la presqu'île et du Finistère, on aura un réchauffement. Mais c'est aussi, je dirais, les conditions de vie en général, y compris les précipitations, les vents, etc. Et donc, bien sûr, c'est l'ensemble de ces conditions qui font que la presqu'île et le Finistère, enfin, au sens large, deviendraient effectivement des lieux pour des réfugiés climatiques, appelons-les comme ça. A priori, ça peut paraître effectivement favorable. Encore faut-il que l'activité économique puisse dérouler correctement, parce qu'on ne peut pas être uniquement un lieu d'accueil pour les réfugiés. Il faut que la vie économique ordinaire puisse continuer, quoi. Et là-dessus, bien sûr, on a vu qu'il y aura des perturbations. Donc voilà ce que je peux répondre à ta question, mais bien sûr, ceci dépend des conditions, notamment de précipitation, qu'on n'est pas encore capable de définir.
Depuis le début de vos observations sur le terrain, sur les océans ou en Antarctique, quelle différence avez-vous observée?
Alors, je vais juste donner un exemple. En 1988, j'étais sur un brise-glace, enfin un navire antarctique, donc au sud du Cap Horn, en face d'une île qu'on appelle l'île du Roi George. Si vous regardez sur les cartes, ça s'appelle King George Island. Et là-dessus, il y a pas mal de bases, dont une base chilienne. Alors, je regardais aux jumelles, parce qu'une partie de l'équipage était en train de débarquer, et je voyais des enfants jouer sur la glace, en fait. Et pourquoi? Parce que le Chili a véritablement implanté là-bas une petite ville, puisqu'il revendique cette partie comme étant appartenant, cette partie de l'Antarctique appartenant à leur pays. Quand je regarde maintenant par satellite les vues de cette région, toujours au même mois, donc là c'est en été austral bien sûr, hein, eh bien il n'y a plus du tout de neige et de glace. C'est spectaculaire. Donc on voit bien que dans les régions que j'ai visitées moi, enfin que j'ai eu la chance de visiter en Antarctique, il y a un impact direct du réchauffement, notamment sur ce qu'on appelle la péninsule antarctique, qui est donc au sud du Cap Horn.
Comment percevez-vous la question du réchauffement climatique au début de votre carrière? En parlait-on et comment était perçue cette question par les scientifiques?
Alors, moi j'ai un parcours qui est un peu particulier. Hein. Je suis ingénieur de formation et j'étais ingénieur à EDF. Hein. Donc, c'est-à-dire pour la production d'énergie. Et bon, après j'ai été amené à changer, je suis venu ici à Brest pour faire l'océanographie. Mais j'ai une certaine sensibilité aux questions énergétiques et j'ai publié à l'époque avec un groupe de scientifiques le projet Alter-Breton qui posait la question est-ce que la Bretagne peut être autonome en énergie, c'est-à-dire sans utiliser de pétrole et nucléaire? Et la réponse était oui, et on a vu qu'en fait ce point de vue-là est en train maintenant de se vérifier. Bon, mais ceci étant, nous n'avions pas à l'époque, nous savions bien sûr que le CO2 avait un impact sur le climat, mais nous n'avions pas encore, dans les années 80, nous n'étions pas conscients des impacts qui seraient globaux. Et donc progressivement, j'ai aussi pris conscience moi-même que cette question des rejets de CO2 était non seulement intéressante du point de vue scientifique, mais était aussi très impactante sur la société. Et donc j'ai fait tout mon parcours, notamment du fait que l'océan joue un rôle essentiel dans la régulation du climat. J'ai moi-même pris conscience progressivement de l'importance de cette question scientifique pour l'ensemble de la vie, de la vie de tous les jours et de la vie de la planète Terre.
Merci.
Bien, je peux répondre bien sûr et en vous remerciant vous-même pour le sérieux de vos questions et de la préparation que visiblement vous avez consacrée pour cette émission. Hein. Et je ne peux que vous encourager. Alors. Mes conseils seront continuer bien sûr à vous informer. Alors, c'est essentiel de vérifier son information. Hein. Vous m'avez entendu parler tout à l'heure des fake news. Hein. C'est pas parce qu'on lit quelque chose sur Internet qu'il est vrai. Alors, je pense que vos profs vous disent la même chose, hein, mais c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'esprit critique, les gars et les filles, vous êtes morts. Il faut continuer à développer cet esprit critique. C'est essentiel pour bien comprendre comment vous allez vivre dans le futur, donc pour bien gérer vos vies. Voilà le conseil que je peux vous donner.